je me dis que c'est pas mal ici à la campagne pour vous dire bonjour. Alors le ici, c'est le balai des hirondelles qui sont en rase-motte, les allers-retours en veux-tu en voilà pour nourrir les petits qui vont dans les granges, hein, parce que dans ce coin de Haute-Saône, bah, tout n'a pas été bouché et donc les hirondelles peuvent façonner leur nid, là, collé aux poutres. Et puis si elles ne volent pas haut aujourd'hui dans le ciel, bah, c'est bien parce qu'il y a, eu de l'eau, hein, donc il a un peu plu, que l'eau de nouveau n'est pas loin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la terre et pour les cultures. À côté, vous imaginez, vous avez deux frênes immenses, vous avez un platane, deux marronniers, un catalpa avec ses larges feuilles. Donc ce sont en fait de vrais climatiseurs. Et puis bah, des vaches montbéliards tranquilles là-bas dans le pré. Alors je me suis dit que c'était peut-être mieux que de vous causer d'Amazon qui veut construire 40 000 mètres carrés sur 5 étages à 6 km du pont du Gard. Et que nous dit le rapport de Mounir Majoubi, député En Marche ? Eh bien que un emploi créé par cette entreprise égale 2,2 emplois détruits. Mais Amazon vendra des livres vantant l'écologie, le terroir, le made in France, le savoir-faire local, la permaculture et même peut-être des manifestes pour soutenir les libraires. Alors, hier, c'était la journée de l'environnement. Moi, je vous offre ce que j'ai sous les yeux. Le son de la tourterelle, la simplicité du vol des abeilles et des hirondelles. Et je me dis que c'est quand même vachement mieux. Allez, deux sujets aujourd'hui. Nous retrouverons la voix de Michel Serres. Et là, page quasi-nature en Auvergne avec un fou d'insectes.
Là, on va grimper, c'est un endroit où...
Alors, quand on dit qu'on va grimper, réellement, c'est-à-dire que là, on était sur un sentier, puis là, on est vraiment au pied des blocs de là.
Sentier et dans, les chardons, et dans un endroit là qui pose un problème de, systématique. Pour nommer les bêtes, il y a une science qui s'appelle la systématique. J'ai attrapé une bestiole, il y avait une Allemande qui faisait une révision du genre pour toute l'Europe de cette bestiole-là. Et moi, j'en ai attrapé une, 21e, qui vient semer le bazar dans ses certitudes. C'est-à-dire que cette femme-là a mis 5 ans pour réaliser son travail. Et moi, en lui envoyant gentiment par colis postal ce que j'avais attrapé sur le puits de Crouel, je lui ai en rajouté 2 ans de travail de plus.
D'accord. Au moins. Et donc, elle vous déteste maintenant.
J'ai contribué. C'est comme ça que je contribue. Je suis récolteur de profession, naturaliste récolteur.
Département, c'est le Puy-de-Dôme. Alors, je vous emmène dans un lieu romantique à souhait, entre la zone commerciale et l'aéroport, à côté de l'autoroute et de la voie ferrée. C'est super, vous allez me dire. Ouais, le Puy de Crouel. Alors, c'est un puits qui est modeste. Il est resté seul très longtemps, vous voyez, donc il y a 10 000 ans, quand les volcans voisins pétaient le feu. Et puis, Clermont-Ferrand s'est collé à lui, l'a gentiment encerclé. Il est devenu une butte, il est devenu une montagnette, hein, mais c'est quand même un puits. Ah ouais, non, respect. Et sur sa peau de terre, Frédéric Durand, insectologue, entomologiste, donc l'a exploré, il l'a inventorié, il l'a aimé, car c'est un très joli réservoir de petites bêtes. Et notre baroudeur de la diversité biologique a écrit en son temps un livre nommé Le Troubleau. Alors le Troubleau, ça veut dire troubler l'eau, hein. Il s'agit en fait d'une épuisette à insectes. Et je vous propose cette balade, ce mini-portrait de ce quinca fou d'insectes qui illustre très bien ce que disait Giono, l'aventure commence au bord du talus.
J'ai froid. Moi aussi.
C'est chiant, les gars.
C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Moi, j'en ai assez de la nature à la campagne, quoi.
Oui.
C'est un peu facile. C'est le contraire de ce que souhaitait Marcel et Alphonse Allais. C'est la nature en ville. C'est là d'ailleurs où on vit, donc c'est là où il est le plus agréable de la rencontrer. Quoi.
Bien sûr.
Non, mais quand même, on n'est pas très loin de Clermont-Ferrand, on est vraiment en périphérie. Et ce qui est assez surréaliste, c'est de voir ce bout de volcan. Non, c'est quand même un puits. Hein,
c'est un puits, c'est le puits de Crouel, qui domine la plaine de la Limagne, qui est en fait en plein cœur de la zone industrielle. Et c'est ce que je pourrais appeler une île moderne. C'est pas de la mer qui le sépare des autres terrains, c'est une autoroute, c'est une voie de chemin de fer, c'est un parking de grande surface.
Ouais, ça sent plein
et une autre quatre voies.
Une suite de corridors, on va dire, un peu comme ça.
Voilà, donc là, toutes les bestioles qui vivent dans ce coin-là, elles ne pourront pas trouver d'autres partenaires que ce qui existe dans le coin. Dès qu'elles traversent, c'est pire que la vie du hérisson, là. Ouais. Là, tout le monde flippe, là. On va grimper par là.
On va grimper par là, bah, on y va. Et ça manque pas de charme, hein. On a une petite maison de vigneron.
Voilà, avec cette cabane, les fameuses cabanes de jardin.
Et alors à côté de la cabane, il y a, j'ai presque dire, cet inévitable bidon en plastique qui est d'un bleu extrêmement saillant.
Le bidon en plastique est obligatoire pour élever les moustiques. Oui. C'est le côté du jardinier qui était en fait le premier qui veut qui a compris l'économie, quoi. C'est-à-dire il économise, il récupère l'eau.
Il récupère les moustiques.
Et il récupère les vieux bidons pour pouvoir récupérer l'eau.
Oui.
Tout est une espèce d'économie minimale comme ça.
C'est-à-dire, on vous ment pas, il y a trois pneus aussi. Alors, c'est quand même pas pour faire un petit puits, hein. Ils attendent pas une couche de peinture rouge et blanche. Mais il y a quand même trois pneus qui vont servir sûrement à quelque chose, on sait pas à quoi.
Les pneus, ils servent exclusivement aux orvées ici.
Oui.
C'est-à-dire que les gens les jettent, les orvées s'installent dessous parce que c'est chaud et ça crée des milieux comme ça parce que la nature est très optimiste. Et
puis c'est la région aussi quand même.
Oui, c'est la région, fatalement ici, le pneu, c'est pas ce qui manque.
Non.
Et donc, effectivement, sorti du boulot, il y a encore un endémique des zones périurbaines, c'est le jardinier. Et le jardinier ici, c'est pour tous les gamins du coin, c'est une bête farouche parce qu'après son boulot chez Michelin, il vient implanter ses rangées de poireaux.
Oui.
Et avec les copains, avec les lance-pierres et tout ça, on essayait bien d'aller dans ces champs où il se passe en fait. Ils sont en même temps ceux qui préservent la nature puisqu'ils plantent que des poireaux, ils ont leurs petits pommiers, ils ont Donc c'est les seules zones sauvages.
Oui.
Donc c'est les seules zones où il est intéressant d'aller courir pour les gamins. Et là, on se faisait poursuivre. Par les jardiniers qui sont des bêtes farouches en fait.
Jardiniers.
Ouais. Un piochon à la main ou une serpette, c'est toujours armé ces bêtes-là. Cet endroit est très particulier puisque bon, c'est une montagne.
Mais c'est pas laid du tout en plus. Hein. C'est très urbanisé, soyons clairs.
Il n'y a pas plus urbanisé.
Ah bah non, si on tourne le dos, on voit l'aéroport d'Olna qui est derrière. Les zones industrielles, en veux-tu, en voilà.
Le crématorium.
Ouais.
Et là, c'est quand même un endroit où on trouve la couleuvre lisse, la vipère à spic, les guêpes qu'on appelle des polistes. Quoi. Tout le monde est réuni ici et c'est les résistants. Quoi.
Ouais.
On peut entendre le char des partisans bourdonner par le xylocope moyen, mais c'est un endroit...
Alors le xylocope moyen, parce que j'imagine que c'est une bête qui a rapport avec le bois, le xylocope.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'abeille charpentière, qui donc fait des trous dans le bois pour pondre ses larves.
Mais c'est une grosse bestiole, c'est monsieur, c'est sympa, c'est un peu un loulou, ça.
Il s'écoute voler, c'est un gros pépère, c'est Bébert le bourdon. Ici, il y a une manifestation qui s'appelle « Quand il y a Harley ». On les voit tous arriver. Et
on va parler Davidson.
Et le bourdon les suit derrière.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles.
Bon, alors Frédéric Durand, allez-y, passez devant. Hop. Attendez, la vue est sûrement belle, mais j'en suis pas encore là, moi. Ah, et puis il y a quand même de très jolis lichens là aussi. Hein.
Oui. Des petites plantes grasses, donc des petites plantes succulentes un peu partout, parce que c'est effectivement exposé plein sud, là, ce coteau. C'est méditerranéen complet, comme biotope. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est par exemple sur un lieu comme ça, c'est que si je voulais en connaître tous les habitants, je serais obligé, pour une famille qui s'appelle les Tripoxylon, de m'adresser à un Russe. Si je veux connaître les Tachisfex du coin, je suis obligé d'envoyer mes bêtes en Californie. Si je veux connaître...
Ce que vous nous dites, c'est que les spécialistes des différentes bestioles qui ont ces noms barbares auxquels que je ne répéterai pas, ont donc déjà leur monsieur qui inventorie, qui les connaît depuis déjà des années et des années.
Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours un travail énorme. C'est-à-dire pour connaître un groupe. Ah oui. C'est-à-dire, par exemple, le groupe qui m'intéresse, il y a 5000 espèces. C'est beaucoup plus que les mammifères. Ah oui. Donc, toute ma vie ne suffira pas à être un bon spécialiste de pompiles. Donc je serai un médiocre spécialiste de pompiles, mais avec le temps, j'espère être bon vers 85 ans.
Vous avez encore un petit peu de marge quand même. Le pompile, donc, auquel vous intéressez, c'est une guêpe, mais c'est peut-être un peu trop facile de dire ça.
C'est des guêpes qui chassent les araignées, qui paralysent les araignées pour nourrir leurs larves.
D'accord.
Donc c'est ce qu'on appelle les guêpes solitaires, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de colonies, qui ne sont pas sociales. Ah ouais. Et la notion de sociabilité, c'est quand il y a un ouvrier. C'est là que ça commence à se gâter.
C'est quand il est syndiqué, quoi. Donc un peu.
Chez les guêpes, le poste d'ouvrier est pas enviable puisque tu es stérile et que tu es là pour bosser, quoi. Donc il faut s'imaginer la tête des scientifiques qui ont arrivé à trouver que c'était ouvrier qu'il fallait marquer. Bon, ça, ils auraient pu marquer esclave, ça aurait été mieux. Mais bon,
ils ont mis ouvrier.
Ils ont mis ouvrier. Ouais. Il faut se méfier des scientifiques aussi.
Venir l'été. Est-ce que tu vas nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Et pourquoi pas? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Insectes sociaux, insectes asociaux, lesquels vous préférez? Enfin, en vous écoutant un petit peu, je pense que...
C'est assez simple de s'en dire que c'est les asociaux.
Oui.
C'est plus rapide. Cette insociabilité peut commencer dès l'école, pour moi. Elle commence dès l'école, puisqu'on me fait aller à l'école comme tout enfant vers 4, 5 ans, 6 ans. C'est la maternelle, c'est obligatoire. Et heureusement, entre la maternelle et ma maison, il y avait le chemin qui amenait jusqu'à l'école. Et
sur le chemin, c'était l'aventure au bord du talus.
Voilà, sur le chemin, c'était tout ce qui fabriquait, tout ce qui m'a fabriqué. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est des vocations. Moi, c'est une constitution. J'ai une colonne vertébrale constituée d'un vertébré, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, vous n'avez pas des diplômes savants entre guillemets d'entomologiste, quoi.
C'est pas une fierté de pas les avoir. J'aimerais bien les avoir. C'était pour moi absolument inaccessible, quoi. Ouais. Parce que déjà dès la maternelle, j'étais déjà parti pour pas y arriver, quoi. Ouais. Donc c'est pas bac plus 6, c'était impossible.
Vous parlez de la mouche que vous vénérez parce que c'est elle qui apporte de la vie parfois dans les classes.
On s'agrippe à tout, et à tout ce qui est extérieur à l'école. Tout ce qui est extérieur prend le pas sur ce que le professeur peut raconter. Et une mouche à l'école, c'est un vrai moment de liberté.
Ouais.
Et j'ai dû faire partie de ceux qui étaient à côté du radiateur, près de la porte ou près de la fenêtre pour s'échapper. Et effectivement, les mouches à l'école, c'était des moments d'absence, mais magnifiques. En fait, toute une vie comme ça peut être fondée sur l'extérieur, ouais, au lieu d'être obligatoirement apprise et rentrée dans le moule. Il y a un moule encore plus grand, qui est le moule de l'extérieur, quoi. Et celui-là, il laisse en fait toutes les fantaisies. Alors on pousse un peu comme un buisson, un peu dans tous les sens. On est un peu une sorte de chien d'en moyen, quoi. Mais bon, on pousse quand même. Hein.
Donc merci aux insectes, parce que c'est un peu qui vous ont sauvé, quoi.
Oui. Et par exemple, je pense souvent aux guerriers Maasai. Ils ont une chance fabuleuse. C'est des lions à côté de chez eux. C'est directement leur
réservoir à rêve, quoi.
C'était facile. Moi, avec un copain, on essayait péniblement de se construire un tipi avec des mulots.
Ah, oui.
Ça a été très pénible, surtout pour les mulots du coin. Parce qu'on a fait on tannait les mulots, on essayait de faire une tente.
Oui.
Bon, je sais pas combien de milliers de pots de mulots il faut pour arriver à faire un tipi, mais un Indien d'Amérique du Nord, c'est un vrai feignant avec ses trois bisons, quoi.
Exactement.
Et si on avait eu plus de copains comme ça, naturalistes, je pense qu'il y avait un regroupement de naturalistes dans une zone urbaine comme ça. Il y aurait des totems marrants avec des têtes de mouches, avec des têtes de lézards, des murailles, avec la tête d'une musaraigne. Quoi, pour moi, tout ça, c'est de l'animisme de banlieue, quoi. Mais c'est présent. Donc il y a des parcelles de liberté. Et dans ces parcelles de liberté, bien sûr, t'as le jardinier qui peut pas s'empêcher de mettre ses trois
piqué et son bout de barbelé pour t'empêcher de passer. Donc ça, c'est...
Je suis chez moi.
Voilà, c'est ça, je suis chez moi. Sans mais blague. quand t'es un peu gamin, t'es un peu partout, quoi. Tu vas lui manger ses pommes quand même.
Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Parce que bien quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
Allez, on descend du puits de Crouel. Merci Frédéric Durand. Et nous allons écouter qui avant de retrouver Michel Serres? Roger Glover. Comment? Ah, Roger. Oui, moi, vous avez raison, c'est Roger Glover. L'amour est tout, Love is All, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur Roger Glover sur France Inter. Et dans CO2 Mon Amour, on va retrouver cette voix de cet homme, Michel Serres. Il est de ces collines du Lot-et-Garonne, pays de Puech, où les hommes posèrent de gros villages, vous voyez, en leur sommet. Il est de ces cailloux roulés par l'érosion, hein, façonnés par le flot de sa Garonne et par le temps. Et alors son accent délicieux, c'est-à-dire ce chant, qui est rajouté à la langue, il vient de là, il vient de son sud-ouest. Garder son accent, c'est garder la fierté de ses origines et de ses racines. Et son contrat naturel, en fait, allait de soi. Cette alliance avec la nature était signée dès son enfance. Et Michel Serres donc a senti le bouleversement du numérique, on va en parler, et la crise écologique, et la coupure avec le vivant, donc dominée par l'homme sans limite. Alors la joie lucide qui caractérisait notre encyclopédiste contemporain faisait le pont entre le XXe et le XXIe siècle galopant. Oui, mais pour aller où? Un an après sa mort, les éditions du Pommier sortent en ce moment un inédit de Michel Serres qui s'appelle Adichatz. Et ça, dans notre sud-ouest commun ou bien en Gascogne, ça signifie adieu, Adichatz. On va retrouver cet homme, c'était il y a 8 ans, cet optimiste de combat qui pensait avec ses jambes et son cerveau. Et il y a sûrement une petite poussette qui n'est pas loin. Bonjour Michel Serres.
Bonjour Denis Chessou. Petite poussette est née dans les années 90, au moment où les nouvelles technologies devenaient communes, devenaient banales. Et elle est rentrée dans un monde tout à fait particulier parce que nous, qui n'appartenons pas à cette population, si vous voulez, nous travaillons avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire nous sommes un peu en dehors. Tandis qu'elle, elle vit dans le monde impliqué par les nouvelles technologies. Et j'aime souvent dire qu'en tenant le portable, elle m'a enseigné le sens profond du mot maintenant. Quand on dit maintenant, on croit dire le temps présent. Et non, elle dit maintenant, tenant en main. Maintenant, tenant en main. Et alors, maintenant, tenant en main le monde, dit petite poussette. Et pourquoi le monde ? Ben, tout simplement parce que elle tient les lieux par le GPS, elle tient les informations pour Wikipédia et autres moteurs de recherche, mais elle tient aussi le monde par le fait qu'elle peut appeler n'importe qui. Et j'aime poser la question, qui pouvait dire autrefois, et même récemment, maintenant, tenant en main le monde ? Eh bien, qui pouvait le dire ? Je ne sais pas, un empereur romain, un riche milliardaire, peut-être le pape, j'en sais rien, mais des personnes rares.
Et aujourd'hui, près de 4 milliards de personnes.
Il y a des milliards de personnes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça donne l'idée, alors, tout à fait en harmonie avec ce que vous dites d'habitude sur les ondes, c'est-à-dire une sorte de partage des connaissances, une sorte de partage du pouvoir, quelque chose comme une utopie démocratique nouvelle. Voilà, c'est ça ce changement profond.
Michel Serres, donc, ce monde de demain, avec les réalités physiques de la planète, dont l'homme pense encore pouvoir s'affranchir, en tout cas une certaine partie, on est encore dans ce schéma-là. Exact. Comment l'appréhender ?
J'ai tenté de l'appréhender plusieurs fois. J'ai premièrement tenté de l'appréhender au début de manière juridique, ce qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est-à-dire sous le titre de le contrat naturel.
Qui était l'ancêtre du pacte écologique.
Voilà, c'est ça. C'est pas l'ancêtre, le pacte écologique n'est que pas le copie de cette affaire-là. Oui. Parce que le pacte écologique, le contrat naturel, c'était simplement l'idée qu'on pouvait faire un pacte avec la nature, avec autant de guillemets que vous voulez mettre à ce mot. Et après cette approche juridique que j'avais essayé de tenter, j'ai tenté aussi une autre approche qui était la question suivante. Généralement, quand on parle d'environnement et de pollution, on dit comment on pollue, avec du CO2, avec tel résidu, avec tel rejet, etc. Mais on se pose rarement la question, pourquoi on pollue ? Et je me suis posé cette question toute bête, pourquoi pollue-t-on ? Et je suis parti de l'idée toute simple des animaux, c'est-à-dire dans la vie courante, la biologie des animaux. Lorsqu'ils marquent leur territoire, qu'est-ce qu'ils font, cher ami ? Ben, ils pissent aux limites de leur niche, vous voyez ? C'est-à-dire ils mettent leur déjection pour limiter la niche. Tiens, c'est curieux comme conduite animale, cette affaire-là. Et alors je me suis dit, est-ce que nous faisons la même chose ? Écoutez, Denis, je vais vous inviter à dîner chez moi, et vous allez cracher dans la salade.
Bien sûr.
Mais personne ne mangera, c'est vous. C'est-à-dire, dès que vous crachez dans la salade, elle vous appartient. Ouais. Dès que vous salissez les draps d'un lit, ils vous appartiennent. Personne n'ira coucher là, puisque c'est vos serviettes, c'est votre lit, c'est votre chambre. Donc, salir, c'est s'approprier. Mmh. Et par conséquent, l'approche que j'avais faite à ce moment-là consistait à dire, et si on polluait pour le droit de propriété ? N'est-ce pas ? Et j'avais fini mon livre qui s'appelait « Le mal propre ». Le mal propre, je concluais en disant « Ah oui, le sale, c'est le propre ». Le sale, c'est de s'approprier. Vous voyez ce que je veux dire ?
Sur le contrat naturel, en fait, vous aviez déjà 20 ans d'avance et vous êtes pratiquement fait traiter de facho, quoi, parce que c'était...
Les gens ont beaucoup critiqué cette affaire-là.
Mais comment en fait la nature peut devenir un objet de droit, quoi,
c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et j'ai consulté récemment un cabinet d'avocats et ils m'ont montré l'évolution de cette idée à travers le monde depuis les 25 ou 30 ans que j'ai écrit ce livre. Et l'évolution est réelle.
Parce qu'aujourd'hui, on essaie même de mettre un prix
c'est
à la nature.
Peu à peu, en effet, on donne des droits à... Et j'ai même vu, je ne sais où, une sorte de procès où justement, un parc était considéré comme sujet moral. Voilà.
Oui, mais vous dites très très souvent qu'on oublie d'inviter la Terre dans les grandes conférences internationales.
Alors, voilà, c'était ma troisième attaque, et vous avez raison de le faire remarquer. C'est la suivante. Je me souviens un jour avoir longuement discuté avec Boutros Ghali, qui était à un certain moment le patron de l'ONU. Et nous parlions beaucoup des questions en effet environnementales avec lui, et je lui parlais de l'eau, et je lui parlais des ressources vivantes sur lesquelles vous me questionnez. Et il me disait... Lorsque je parle de ces questions à l'ONU, à n'importe quel fonctionnaire de cette institution, chacun me répond « Mais monsieur Boutros-Ghali, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement. » Par conséquent, l'ONU est une institution internationale et non pas mondiale. On croit que c'est une institution mondiale, non, c'est une institution internationale. Par exemple, sur la pêche, ils se déchireront sur les quotas de pêche. Mais personne ne prendra les intérêts des poissons. Et c'est ça qui m'avait conduit à l'idée qu'il faudrait une assemblée mondiale où soient représentés à des faits l'eau, l'air, la terre, le feu, etc., les ressources dont vous parlez, y compris les vivants.
C'est-à-dire qu'on voit que tout change, mais que nos institutions restent les mêmes.
Alors voilà, c'est une des grandes questions d'aujourd'hui où dans l'évolution dont on parlait à propos de Petite Poucette, on voit très bien aujourd'hui que la nouvelle génération qui est en train d'arriver, elle est d'ailleurs passée par l'école, ensuite elle est aujourd'hui sur le marché du travail, bien entendu, et toute la question est aujourd'hui, comment vous dire, les institutions ont été créées à une période où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et par conséquent, elles sont aujourd'hui un peu désuètes. Et si je forçais mon idée, un peu presque dinosaures, vous voyez,
c'est-à-dire... C'est pratiquement, si en vous écoutant et en vous lisant, elles ont été fondées au néolithique.
Pas totalement. L'agriculture, oui. Mais aujourd'hui, le monde a tellement basculé que nos institutions sont souvent très différentes. Et moi, j'en connais au moins une, puisque je suis enseignant depuis ma jeunesse. Autrefois, lorsque je rentrais dans l'amphi et que je faisais cours sur, je sais pas moi, les cacahuètes, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, je savais les cacahuètes et mes auditeurs ne savaient pas les cacahuètes. Il y avait présomption d'incompétence. Aujourd'hui, quelle est la probabilité pour que mes étudiants n'aient pas tapé cacahuètes avant d'entrer dans l'amphi ? Mais la probabilité est très forte. Donc, je ne peux pas enseigner de la même manière à des étudiants auxquels j'accorde la présomption de compétence. Vous voyez ? Et là, on voit très bien comment l'institution est en train de basculer entre la présomption d'incompétence et la présomption de compétence.
Et quand on parle de relance, de réforme, qui sont quand même les mots qui sont martelés aujourd'hui...
Oui. Alors, c'est très simple. Alors là, j'ai une réponse très très simple à vous faire. Le mot « crise », qu'on emploie pour la crise économique, est aussi un mot médical, n'est-ce pas ? Bon. Alors, vous avez une crise de cœur, vous avez une crise d'asthme, vous avez une crise, etc. C'est un mot tout à fait usité en matière médicale. Très bien. Alors, de cette crise, de deux choses l'une. Ou vous mourrez, ou vous vous en sortez. Très bien. Mais si vous vous en sortez, qu'est-ce que c'est que cette guérison ? Comment définir de façon claire cette guérison ? Eh bien, cette guérison, elle ne peut pas être le retour au statu quo ante. Pourquoi ? Parce que si vous retournez au statu quo ante, c'est-à-dire à l'état dont vous jouissiez avant cette crise, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez retomber sur la crise. Par conséquent, la guérison n'est pas un retour, n'est pas une réforme, n'est pas un retour en arrière, n'est pas une reprise, vous voyez, n'est pas du re.
Ce que vous dites, c'est qu'on est sur le même modèle, quoi qu'il arrive.
Tous les mots en re ne valent pas. Et par conséquent, les médecins et les biologistes ont inventé quelque chose d'inouï. C'est-à-dire que le retour à la santé, c'est-à-dire la guérison, est l'invention par l'organisme d'un nouvel état de choses.
Alors est-ce qu'on y est dans ce nouveau paysage, on va dire mental,
sociologique ? C'est ça ma question. Quel est le nouveau paysage qu'il faut inventer pour trouver les solutions aux problèmes ?
Mais est-ce qu'on va continuer à se prendre, on va dire, le mur jusqu'à épuisement pour...
C'est ça. Si on se répète, ça ne va pas. Il faut inventer quelque chose de nouveau, et ça, c'est la chose la plus difficile au monde. Parce que c'est vraiment difficile de deviner ce qui n'est pas devinable. Voilà, c'est ça.
Est-ce que l'écologie est pour vous quand même maintenant la première des sciences sociales ? C'est-à-dire, je m'explique, au départ on sait que c'est une science, c'est-à-dire que c'est la science des interactions entre différents milieux vivants.
Exact.
C'est aussi devenu donc
une politique.
Mais quand même, aujourd'hui, je veux dire que ça touche vraiment à l'humain, c'est le socle de tout ce que nous avons sous les yeux.
Alors, l'écologie en effet a été fondée à la fin du 19e siècle par des biologistes qui ont eu l'idée, une idée extraordinaire, d'étudier les lieux. Par exemple, le Mont Ventoux, ça a été un des premiers, ou un lac, ça a été les premiers lacs qui ont été étudiés à Madison, Wisconsin. Vous voyez, Madison et Montpellier, ils ont étudié à peu près, en 1880, à peu près en même temps. Et ils ont étudié l'un la montagne, l'autre le lac, comme une entité globale. Et en étudiant l'entité globale, ils ont étudié évidemment la géologie, la pédologie, l'agronomie, l'hydrologie, la biologie, les espèces animales, etc. C'est-à-dire, tout d'un coup, il fallait tout savoir. Donc, qu'est-ce que l'écologie ? Réponse. Écoutez, cher Denis, c'est la science la plus difficile aujourd'hui. C'est la science qui est globale, c'est-à-dire sur un endroit donné, savoir tout. Ou à partir du moment où vous élargissez pour aller à l'écologie de la planète, vous allez avoir alors une totalité scientifique extraordinairement difficile à tenir dans la main. Bon. Et l'écologie politique est tellement différente de ça. C'est ça qui me fait le plus peur, quelquefois. Parce que j'entends des discours d'écologistes, avec autant de guillemets, et quelquefois je me dis, mais est-ce qu'ils savent de l'écologie? C'est ça le problème. Quelquefois, la distance est tellement forte entre la demande scientifique requise par la science dite écologique, qui a des problèmes vraiment extrêmement complexes à régler, et puis le drapeau vert, vous voyez. Et tout mon souhait, c'est qu'il y ait la réunion entre les deux sens de ce mot-là, entre le sens scientifique et puis le sens, en effet, militant, écologiste, etc., et politique que nous connaissons.
Mais ça, c'est peut-être aussi le boulot des philosophes, et on peut dire, quand même, dans ce XXe siècle, qu'ils se sont très peu occupés d'écologie.
Très, très peu. Très, très peu, pour une raison. Mais hélas, que j'ai beaucoup subi, et que j'ai beaucoup connu, et que j'ai beaucoup critiqué, souvent, parce que j'ai fait un livre qui s'appelait « Le tiers instruit » autrefois, oui, à cause de ça, c'est que les philosophes sont formés aux sciences humaines, sont formés aux humanités.
Pour ça, je vous disais que l'écologie était peut-être une première des sciences sociales et aussi donc une science humaine aujourd'hui.
Et oui, mais c'est une science humaine, mais d'abord, c'est une science biologique, mathématique, physique. Vous ne pouvez pas faire des sciences humaines aujourd'hui sans savoir de la physique, de la chimie, oui, etc., de la biologie. C'est évident, vous voyez. Et les philosophes, en effet, n'ont jamais été formés de cette manière-là. Et pourtant, cher Denis, c'était la grande tradition des philosophes. Parce que Platon était un grand mathématicien, Aristote était un grand biologiste, Leibniz était un grand mathématicien, Pascal aussi, Descartes aussi, etc. Et c'est-à-dire toute la tradition philosophique, c'était la synthèse entre les deux. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque.
Et le rôle de la science, qui nous a éclairés avec le GIEC, entre autres, mais sur plein de plans, ce sera quoi demain?
Je crois que ce n'est pas de la science que je vais demander, c'est peut-être du couplage entre la science et la société. Regardez, par exemple, la France a eu, ces dernières années, des prix Nobel. Ça a été très peu dit, finalement, dans les médias. Oui. Les médias connaissent beaucoup mieux Michael Jackson que Serge Haroche, ou que Claude Coentanoudji, ou que Luc Montagnier. Au début du siècle, Marie Curie est une héroïne nationale, vous voyez. Et je crois que la part de la science, aujourd'hui, est un peu minimisée dans les médias, minimisée, vous voyez. Il faudrait peut-être donner à la science un peu plus la parole.
Juste avant de se quitter, Michel Serres, j'aurais envie d'un coin de Garonne. Je ne dis pas de la Garonne parce que
Garonne,
chez nous, dans le sud-ouest, on dit...
Voilà, c'est une Garonne, c'est une personne, ce n'est pas un fleuve.
Et quand on voit ce fleuve, effectivement, c'est une personne, c'est ça qui coule. Oui. Un coin comme ça de votre Garonne, de votre Lot-et-Garonne, mais peu importe.
Mais moi, si vous parlez de Garonne, vous allez me faire pleurer pour la raison suivante, c'est que mon père était marinier. Oui. Et que quand ma mère était enceinte de moi, c'était les inondations de 1930, et mon père est venu chercher ma mère enceinte de moi sur son petit bateau, et donc j'ai navigué sur la Garonne prénatale. Et par conséquent, j'ai de la Garonne un souvenir avant même ma naissance. Ouais. Et la Garonne, c'est mon amour, absolument. Ça a été tout le temps l'amour de ma vie. Ouais. Merci de finir là-dessus. J'ai toujours.
Est-ce que vous dire, vous n'avez jamais été coupé, vous, du monde et de la terre?
Non, jamais. Non, jamais. Et d'ailleurs, un philosophe n'est pas seulement quelqu'un qui a des idées et qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui les réalise dans sa vie. Voilà. Et j'ai voulu toujours avoir une vie en harmonie avec ce que je pensais.
Et il disait, un progrès donné a presque toujours un prix. Et le prix actuel commence à être très très cher. On ne peut pas laisser le monde tel qu'il est à nos petits-enfants. Alors dans cet inédit aux éditions du Pommier, je vous rappelle, qui s'appelle Adichatz, donc Adieu, Michel Serres se souvient du monde qu'il a connu dans sa jeunesse, les paysans d'Agen, le rugby, les paysages, les chemins de Garonne, et il nous fait évidemment réfléchir à cette mutation extrêmement rapide. Une petite chanson? Oui, c'est l'Impératrice.
Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd, et tu dérives encore. Mentir pas permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie, bye bye les gentils, toi.
C'est fou.
CO2, mon amour.
Et le fromage. Il est pas bon, le fromage.
Denis Chessou.
Ça, il faut reconnaître, c'est meilleur à manger qu'à sentir. Hein.
Sur France Inter.
Fin de CO2, mon amour. Les archives nature, les podcasts sur franceinter.fr, le Twitter Denis Chessou, tout attaché. Merci à Jérôme Boulet, notre réalisateur, à Camille Blanès. Et puis demain dimanche, direction le Parc National des Forêts entre Haute-Marne et Côte d'Or. Je retourne à mes hirondelles. En attendant, portez-vous bien.